VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le Maroc salue son retour au sein de l'Union africaine comme une décision historique et une victoire diplomatique. Mais la question se pose maintenant de savoir comment Rabat va gérer sa cohabitation avec le Front Polisario au sein de l'organisation panafricaine. Le royaume chérifien avait claqué la porte de l'Union africaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique, RASD, proclamée par les indépendantistes du Front Polisario au Sahara occidental, ex-colonie espagnole que Rabat contrôle et considère comme territoire marocain. Ibrahim Akan, spécialiste de l'Union africaine, estime que le Maroc n'aurait jamais dû quitter l'organisation panafricaine.
Le Maroc a quitté l'OUA d'alors pour des raisons liées à la reconnaissance de la RASD. Et aujourd'hui, c'est le Maroc qui reconnaît, ne serait-ce que tacitement, la République arabe sahraoui démocratique par la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le Maroc accepte la République sahraoui est un État africain, est un État indépendant, est un État souverain, et que cette souveraineté, cette indépendance doit être respectée par le Maroc. C'est ça le paradoxe de ce retour du Maroc, parce que finalement, à y regarder de plus près, il y a eu 30 années de perdu pour absolument rien, puisque ce qu'il a refusé il y a 30 ans, c'est ce qu'il accepte aujourd'hui, même dans des conditions plus ou moins difficiles, parce que l'occupation maintenant d'une partie du Sahara occidental qui constitue le territoire de la République arabe sahraoui devient quelque chose d'illégal dans le cadre juridique africain. Et c'est ça qui est un paradoxe pour le Maroc.
Ibrahim Akan à Dakar, au Sénégal. Conflit en Libye, le président tchadien Idriss Déby Itno apporte un soutien au maréchal libyen Khalifa Haftar, rival du chef du gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Idriss Déby Itno présente Khalifa Haftar comme une solution pour le pays. Le président tchadien affirme qu'il a reçu deux fois N'Djamena et assure que le maréchal controversé n'a pas d'ambition politique personnelle. Son rôle, dit-il, est d'aider à un rapprochement pour le retour à la stabilité. Rival du chef du gouvernement d'Union nationale, Faez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, le maréchal Haftar est très actif dans la lutte contre les djihadistes dans l'est de la Libye. Début janvier, N'Djamena a fermé sa frontière terrestre avec le voisin libyen en raison d'une menace d'infiltration terroriste. Les effectifs militaires tchadiens ont été doublés près de cette frontière. Monsieur Déby estime que la menace Daesh persiste. Selon lui, l'intervention des forces spéciales à Sirte n'a fait que créer un nouveau regroupement des terroristes dans la région de Koufra, au sud, à 200 km du Tchad.
En RDC, toujours pas de sortie de crise. La conférence épiscopale a parrainé un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Il y a eu un accord sur la composition d'un futur gouvernement qui se fait toujours attendre. Puis Étienne Tshisekedi, leader du rassemblement d'opposition, est parti à Bruxelles pour des soins médicaux. Madame Christine Botefaboko, vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition, propose maintenant des états généraux de la nation. On l'écoute.
Pour sortir de cette crise, nous comptons organiser les états généraux congolais qui seront composés d'une constituante et d'un gouvernement constitutionnel de transition qui pourra exercer pendant 2 ans jusqu'aux futures élections. Parce que là, franchement, le pays est dans un état chaotique et le plan B de la CENCO, c'est d'envisager une mise sous tutelle de la RDC. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Ça fait 56 ans que le Congo est indépendant. Nous n'allons pas retourner en arrière. Nous n'allons pas régresser en mettant le pays sous tutelle.
Madame Christine Botefaboko, vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Actualité américaine, le président Donald Trump va révéler ce soir le nom du magistrat conservateur qu'il entend nommer au 9e siège, pour l'instant vacant, de la Cour suprême des États-Unis. Un choix qui donnera lieu probablement à un affrontement avec l'opposition démocrate. Cela fait presque un an que la Cour suprême n'a que 8 juges au lieu de 9, avec 4 magistrats conservateurs et 4 progressistes. La plus haute instance judiciaire américaine fonctionne, mais est menacée de blocage. Et toujours concernant les États-Unis, les réactions au décret anti-immigration signé vendredi dernier par le président Donald Trump continuent. Au Canada, des start-up ont demandé au gouvernement d'accorder des visas spéciaux aux victimes du décret Trump. Selon Jean-Philippe Brunet, avocat spécialisé sur les questions de l'immigration à Montréal, l'inquiétude est très grande parmi la communauté musulmane au Canada.
Donc, faisant suite à l'annonce du gouvernement Trump la semaine dernière et le executive order, donc les citoyens des 7 pays identifiés, qui soient donc uniquement citoyens de ces pays ou encore double nationaux, rencontrent certaines inquiétudes et même des difficultés à entrer aux États-Unis de façon plus particulière de notre côté. Après un week-end quand même très très chaud, via lequel plusieurs de nos clients ont communiqué avec nous, il y a plusieurs échanges dans le domaine des avocats et des avocates en immigration. On se retrouve dans des situations comme, par exemple, un citoyen donc de l'un des 7 pays qui devait se rendre à un board aux États-Unis cette semaine, où finalement la décision a été prise de ne pas y aller, ne sachant pas exactement comment les services d'immigration allaient se comporter lors de sa demande d'admission aux États-Unis.
Et on dénote aussi de l'inquiétude d'autres communautés de pays qui ne font pas partie de la liste.
Oui, effectivement, puisque l'executive order a été identifié par les médias américains comme étant un, et je cite, leur grand titre, un « Muslim ban ». C'est certain que certains citoyens de d'autres pays, donc non identifiés à cette liste, ont certaines inquiétudes quant à des voyages privés aux États-Unis. À titre d'exemple, un client, nous, de nationalité pakistanaise, qui devait se rendre aux États-Unis cette semaine, bon, après quelques échanges ce week-end, a décidé de tout simplement annuler son voyage, n'étant pas certain que ce dernier n'allait pas rencontrer de difficultés lors de son admission, puisqu'il faut se rappeler que bien que l'executive order lui-même, en termes de mots, est somme toute assez clair, l'applicabilité et la définition de comment ça va être appliqué, bon, disons qu'il y a plusieurs points d'interrogation à l'heure actuelle, et c'est le problème auquel nous faisons face à l'heure actuelle. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, le but, c'est de comprendre ce qui a été fait, et à l'heure actuelle, ce n'est pas 100% clair.
Par contre, votre premier ministre canadien, a pris un peu le contre-pied de Donald Trump.
En fait, le gouvernement canadien a tout simplement indiqué le fait que, peu importe votre nationalité, vous êtes les bienvenus au Canada dans la mesure où vous rencontrez les critères d'admission. À savoir s'il va aller plus loin, s'il va prendre des décisions concrètes à cet effet, ce n'est pas encore fait. Donc, on verra. La semaine risque d'être remplie de nouvelles à cet effet de la part de leurs voisins du Nord, plus particulièrement nous ici au Canada.
Jean-Philippe Brunet, avocat spécialisé sur les questions de l'immigration. Il était joint à Montréal par Claire Morin-Gibourg. Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon pour terminer. La première demi-finale opposera demain à Libreville le Burkina Faso à l'Égypte. Un duel a priori déséquilibré entre les étalons burkinabés finalistes de l'édition 2013 et les pharaons qui sont les septuples vainqueurs de la CAN, les pharaons de l'Égypte. Mais les burkinabés y croient et continuent de se préparer sereinement à Libreville où l'on retrouve sur place l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Les étalons se sont entraînés lundi à huis clos au stade de l'INGS de Libreville, une décision du coach Paulo Duarte qui veut assurer à ses poulains une concentration maximale avant la demi-finale contre l'Égypte. Dimanche déjà, consigne avait été donnée aux fans burkinabés de ne pas se rendre à l'entraînement. Pour les étalons, la mission au Gabon est loin d'être accomplie et il faut mobiliser toutes les ressources mentales et physiques pour y parvenir. L'Égypte est une adversaire de taille en demi-finale et ils en sont conscients. Mais les burkinabés n'ont pas oublié leur élimination par les pharaons en 1998 sur leur propre pelouse à ce même stade de la compétition. Ils comptent donc bien prendre leur revanche cette fois-ci, nous a dit le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré. Quelques atouts des étalons ici au Gabon. Ils ont accumulé un prix précieux capital de sympathie auprès des Gabonais pour avoir été la première équipe nationale à arriver sur place pour la CAN 2017. Par ailleurs, leur coach Paulo Duarte a gardé de bonnes relations ici et a entraîné les Panthères gabonaises pendant 2 ans. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
La deuxième demi-finale se jouera jeudi entre le Cameroun et le Ghana.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.